Laurent Varlet. Trafic d'art. Trafic d'art, le magazine culturel singulier au service de l'art pluriel, où l'art dans tous ses états, de l'état de grâce à l'état d'urgence, pour mieux surfer sur la vague de nos états d'âme, ou flâner ensemble sur les sentiers de l'art contemporain. Si c'est possible, c'est sur RGB 99.2, c'est Trafic d'art, et c'est maintenant. En direct avec vous, jusqu'à 20h. Bonsoir. C'est connu, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Eh oui. C'est donc avec plus ou moins d'entrain que l'on s'acquitte de ses tâches quotidiennes, parfois avec enthousiasme et parfois sans élan véritable. Eh ben oui, c'est comme ça. Je pense que tout le monde connaît bien ça. Et croyez-moi, cela vaut pour la plupart des choses que nous réalisons, y compris pour des tâches réputées passionnantes, comme celle de créer par exemple, ou celle aussi d'animer une émission de radio, comme c'est mon cas depuis quelques années, en votre compagnie. Eh bien oui, je l'avoue, il y a parfois des jours où je ne m'éclate pas, pas toujours en tout cas. Il y a des jours où, même sur les ondes, on sent comme planer une odeur d'habituelle routine crasse qui n'est pas sans rappeler les glorieuses années des petits matins blêmes sur les chaînes de montage de Renault Billancourt. Mais, à l'inverse, il y a aussi dans notre quotidien des moments intenses. Des moments riches en émotions, des moments riches en rencontres, des moments inattendus et aussi excitants que ce que vous trouvez excitant, bien sûr. Je laisse le soin à chacun et à chacune d'entre vous de puiser dans son expérience personnelle pour y trouver le souvenir d'une excitation qui lui convienne. Voilà. Alors tout ça pour vous dire quoi ? Eh bien tout ça pour vous dire que je suis ce soir à la fois ému et puis un peu excité, il faut bien le dire, à l'idée de partager ce temps d'antenne avec mon invité pour une émission, disons-le, carrément un peu exceptionnelle. Donc, sans plus attendre, eh bien, Pierre Soulier et moi-même sommes très heureux d'accueillir ce soir une grande dame de la création artistique contemporaine. Il s'agit d'Orlan. Voilà. Alors, Orlan, qui est-elle ? Eh bien, c'est une artiste polymorphe, certainement, à l'aura sulfureuse, passionnée de nouvelles technologies, invitant jusqu'à son propre corps à un dialogue intime avec le spectateur. Orlan, artiste de renommée internationale, véritable star d'un système multimédia réinventé par elle-même jour après jour. Orlan, artiste, oui. Orlan, femme, certainement. Professeur à l'École nationale supérieure d'art de Cergy, et qui expose, j'allais dire, s'expose, et c'est un lapsus, ma foi, assez révélateur, et on verra pourquoi dans le cours de cette émission, qui expose donc aujourd'hui à l'abbaye de Maubuisson, à Saint-Ouen-l'Aumône, ça tombe bien, c'est à deux pas d'ici. Donc, cette exposition à Saint-Ouen-l'Aumône s'intitule « Union mixte, mariage libre et noces barbares ». Voilà. Alors c'est un ensemble de dispositifs, de motifs qui traitent notamment, principalement, du métissage et des hybridations. Alors il y a plein de choses dans cette exposition. Là je me permets effectivement d'en parler un petit peu parce que il se trouve que notre invitée se fait attendre. Et oui, c'est ça les stars. Il se trouve que elle était prise un petit peu dans les embouteillages sur l'autoroute A15. Je pense que tout le monde connaît ce genre de déboire régulièrement, mais elle devrait arriver incessamment sous peu. Donc, cette exposition se passe dans différents endroits de l'abbaye. Alors, il y a bien évidemment la Grange à Dîmes, ce fameux espace très très imposant, qui est toujours très difficile d'ailleurs à investir pour les artistes, où Orlan en fait donc propose une, on en reparlera avec elle tout à l'heure bien sûr, hein, propose une sorte de limousine gonflable assez impressionnante et qui plus est lumineuse, avec également une installation vidéo en regard de cette fameuse limousine, une installation vidéo donc projection qui est tout à fait étrange, avec une poésie étrange, donc. C'est difficile quand même d'en parler puisque malheureusement elle n'est pas là. Il s'agit en fait d'une projection, d'un remix du film de Costa Gravas, Costa Gravas, Clair de femme, voilà. Et puis il y a également un peu plus loin dans l'abbaye, dans la salle du parloir, une sculpture tout à fait étonnante qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler le visage d'Orlan. Alors on verra à quel point justement l'image du corps chez Orlan est une chose importante. Eh bien, cette sculpture s'appelle Sculpting Brushings et elle est sous-titrée Prototype lumineux numéro 1. Voilà. Il s'agit d'une sculpture interactive qui est tout à fait étonnante et qui était un combiné de technologies de pointe, pourrait-on dire. Voilà, justement, Orlan me rejoint dans ce studio, donc elle pourra en parler bien évidemment beaucoup mieux que moi. Donc Orlan, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation. On est très très fiers de vous recevoir.
C'est gentil, merci.
Et alors, écoutez, lorsqu'on commence une interview, on se pose souvent la question de l'angle d'attaque, hein, c'est-à-dire la manière en fait par laquelle aborder son sujet, surtout lorsque celui-ci est d'envergure et à multiples facettes, si je puis dire. Alors après réflexion, j'ai choisi un angle d'attaque plutôt frontal et un peu candide en même temps, afin de mieux découvrir donc ensemble notre invité. La question est la suivante: Orlan, après tant d'années passées en compagnie de vous-même, est-ce que ça vous plaît toujours autant d'être Orlan ?
Eh bien écoutez, je suis Orlan, mais entre autres et dans la mesure du possible. Effectivement, il y a toujours une très grande fatigue de soi, qu'on s'appelle Orlan ou autrement.
Ou Tartampion, oui.
Et effectivement, dans cette exposition, j'ai éprouvé le besoin d'avoir une salle qui en fait s'appelle sous un autre nom, qui s'appelle AAK.
Ah, en fait, oui, c'est... Voilà. Oui, justement, ça c'est important, AAK.
Et en fait, souvent, quand on est Orlan, on vous demande des expositions où on se vend que sur catalogue comme les graines Thésier, et on vous demande la page 31 du catalogue Flammarion, et puis la page 132 du catalogue Carta, et puis etc., etc. Et l'exposition est faite, et en fait, la problématique du conservateur ou du curateur est là. Et donc, vous illustrez cette problématique. Et ici, dans cette abbaye de Maubuisson, je n'ai pas été ni une sœur de cœur, ni une sœur converse, mais une sœur dotée. Ce qui veut dire qu'effectivement, les sœurs de cœur donnaient donc leur dot et leur argent pour pouvoir venir prier dans l'abbaye. Et les autres payaient toute leur vie en étant les employés, les servantes de l'abbaye. Et donc, moi, j'ai été dotée et on m'a dit « fais ce que tu veux ». Donc, je suis une religieuse extrêmement libre. J'ai une carte blanche. Et donc, je pense que je me suis complètement renouvelée en faisant des choses très inattendues, je pense, tout en étant pas par jour à moi-même. Et cette exposition aussi ne parle pas que de moi, et mon travail n'est pas uniquement sur un rapport à l'identité, mais sur beaucoup d'autres choses et aussi j'ai essayé de faire donc que dans ce lieu qui est inouï des réponses inouïes pour chacune des salles avec des ambiances tout à fait différentes.
Alors on va en reparler plus longuement si vous voulez bien un peu plus tard. Effectivement, on va pouvoir visiter ensemble les différents lieux de l'abbaye et les différentes installations que vous y proposez, mais là vous avez évoqué justement le nom d'AAK. Qui est vous sans être vous, et donc justement par rapport à la question que je vous posais au départ, à savoir est-ce que vous êtes toujours aussi satisfaite de vivre avec vous-même en tant que personnage, puisque Orlan c'est aussi une création quelque part, comment vous situez par rapport à ça, c'est-à-dire qui est AAK Et qu'est-ce qu'elle vient faire dans ce dispositif?
Alors, en tout cas, je sais déjà un petit peu, à la fois qui est Aka et qui est Orlan. En tout cas, Orlan, c'était vraiment quelqu'un de fabriqué dans l'idée de la sculpture de soi, de l'invention de soi, de ne pas accepter ce qui nous est donné au départ par la nature, et qui est vraiment quelque chose souvent dans lequel on se sent à l'étroit ou qu'on se croit obligé d'habiter, alors qu'en fait, on se sent tout à fait ailleurs. Mmh. Et Aka, en fait, c'était pour échapper justement à cette fabrication des pages du catalogue et avec souvent des curateurs ou des directeurs de musées qui sont très réticents à ce qu'un artiste fasse des œuvres tout à fait différentes de ce qu'il a l'habitude de faire. C'est-à-dire que ça permet justement ce AAK de pouvoir faire des choses que, comme cette installation que j'ai faite dans les latrines de l'abbaye de Maubuisson et qui est une installation que j'ai toujours proposée et qu'on m'a toujours refusée en me disant « Non, t'attends pas là, Orlan, c'est pas ça, c'est
oui, l'identité, vous êtes l'hybridation, etc. » Voilà, victime de votre image également, hein, c'est-à-dire que c'est difficile parfois de se défaire d'une image qu'on a su imposer comme ça au cours
du temps. Oui, et moi j'ai toujours essayé de sortir du cadre. Mes premières œuvres, par exemple, s'appellent « Tentative de sortir du cadre » ou « Nu avec un masque », j'essayais de sortir d'un très grand cadre doré. Et ça a toujours été cette remise en question d'être conscient des cadres qui nous entourent et de savoir les traverser, même ses propres cadres, même ceux qu'on se fabrique, parce qu'effectivement, quand on a une vie relativement longue, on passe par des contextes intellectuels, des contextes de société, des contextes politiques, des contextes de technologie tout à fait différentes, et on est amené à se repenser dans le... Je l'espère, en tout cas, que tout le monde fait cela.
Mmh. Alors justement, revenons à votre parcours artistique, parce qu'il est extrêmement dense. Donc vous êtes... certainement une artiste multimédia, vous me corrigez si je dis une bêtise, et lorsqu'on parle de multimédia, en l'occurrence pour vous, il s'agit de la photographie, de la vidéo, de la sculpture, mais aussi des installations, des performances, et en plus, et ça c'est plus rare, des biotechnologies. Alors, on ne compte plus, Orlan, vos expositions, vos distinctions, les biennales d'art contemporain auxquelles vous avez participé, et ce, dans le monde entier, jusqu'à même d'ailleurs cette nomination en 2003 par le ministère de la Culture de l'époque, qui était, je crois, Jean-Jacques Aliagon, au grade de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Et oui, effectivement, c'est pas tout le monde. Quelle est la raison, selon vous, de cet immense succès? Est-ce que c'est un rapport, par exemple, avec la performance, la fameuse performance que vous avez réalisée en 77 et que vous n'avez pas oublié, bien évidemment, et qui s'appelait « Le baiser de l'artiste » ?
Mais écoutez, dans ma vie, il y a eu deux grands scandales qui n'ont pas été orchestrés par moi, mais par les médias, qui ont été effectivement « Le baiser de l'artiste » et puis les opérations chirurgicales.
C'est pas vous qui l'avez souhaité?
Ah non, pas du tout. Vous savez, c'est comme les opérations chirurgicales. Je ne me suis pas réveillé un jour en me disant « Tiens, si je me faisais opérer, comme ça serait chouette, et puis ça attirait les médias, ça serait impec. » Non, c'est... Toute ma vie, en fait, j'ai interrogé le statut du corps dans la société et les pressions sociales qui s'y inscrivent, les pressions sociales, politiques, religieuses. Donc, en fait, je fais toujours la même chose, on pourrait dire, mais sur des aspects très, très différents. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout une artiste qui a opté pour la peinture, la sculpture. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une idée, une colonne vertébrale à mon travail, et puis de trouver la meilleure matérialité pour dire l'essence de cette idée. Alors un jour, c'est passé par le baiser de l'artiste, parce qu'il me semblait qu'effectivement...
Alors c'était quoi ce baiser, justement?
Voilà, c'était un vrai baiser, un vrai de vrai.
Un vrai baiser sensuel.
Un French kiss.
Un French kiss, ouais.
Et donc, ça se passait au Grand Palais. Ouais, ouais. On était déjà du côté de la langue, le Grand Palais. Et en fait, ça illustrait un texte qui s'appelait « Face à une société de maires et de marchands ». Et donc, c'était une remise en question en fait, du marché, justement de la Foire internationale d'art contemporain. Mmh. Et la première ligne de ce texte disait « Au pied de la croix, deux femmes, Marie et Marie-Madeleine, deux stéréotypes de femmes auxquels il est difficile d'échapper quand on est une femme. Mmh. » Donc, j'avais mis sur le même piédestal un personnage qui était nommé Saint-Orlan, à qui il était possible de donner des cierges, de payer des cierges. Et c'était donc une photo de moi, noir et blanc, collée sur bois et détourée, de moi en Madone. D'accord. Et à côté...
Donc ça, c'était la Vierge. Hein.
Voilà, Saint-Orlan. Et de l'autre côté, il y avait Orlan Corps qui était qui pouvait passer sur une chaise et devant lequel il y avait une sorte de distributeur automatique de baisers qui était fait avec la photo de mon torse qui était collée sur bois et détourée, comme la Saint-Orlan. Et il y avait un bassin qui clignotait en rouge. Il y avait un endroit où on pouvait faire glisser les pièces de 5 francs dans une espèce d'œsophage en plastique qui tombait dans un pubis tiroir où on voyait les pièces s'accumuler.
D'accord. Et, c'est pas banal quand même, hein?
Et donc, cette œuvre, en fait, je peux noter ma vie avant et après. J'ai été immédiatement renvoyé de l'école dans laquelle j'enseignais par un télégramme qui était complètement illégal. Ton attitude de ces derniers jours est incompatible avec ton rôle de formateur. Tous tes cours sont suspendus et nous aviserons pour ton compte. D'accord. Donc, je me suis retrouvé un peu, on pourrait dire, à la rue. Je passe les détails à la suite de ce renvoi. Et donc, ça a été une galère absolument incroyable. Il y a eu beaucoup d'happy end.
D'accord. Alors, vous dites que cette œuvre, justement, c'est pas vous, finalement, qui l'avez créée uniquement, puisqu'elle a été un peu commandée, c'est ça? On vous l'a suggéré?
Pas du tout.
Non, c'est bien une œuvre que vous avez créée vous-même.
Oui. Et à partir d'un texte qu'effectivement, j'avais écrit.
D'accord. D'où le scandale, effectivement.
Non, c'est quelque chose de complètement sauvage. Au contraire, on a essayé de me refouler du Grand Palais. Oui, c'était une chose vraiment imposée, rebelle.
Mais ça a permis de vous faire connaître.
Moi, j'étais connu d'une autre manière, pas par les grands médias, mais j'avais un travail important bien avant de faire le baiser de l'artiste.
Lui est daté effectivement de 77. On va rester dans la sensualité, dans le baiser, hein, avec une première pause musicale. Alors vous en souvenez peut-être, c'était en 2000 Touron. Il s'agit de In the Mood for Love.
Ah, parfait.
如果有多張船飛，你會唔會同我一齊走啊？
Vous êtes sur RGB 99.2, c'est Trafic d'art. Ce soir, nous sommes en bonne compagnie, Pierre et moi, puisque nous avons le plaisir d'accueillir l'artiste Orlan à l'occasion de son exposition donc à l'abbaye de Maubuisson, intitulée « Union mixte, mariage libre et noces barbares ». Alors, on était en train de parler en première, au début de l'émission, donc on parlait du parcours artistique d'Orlan. Dieu sait s'il est dense. Et on ne peut pas évoquer, je pense, Orlan sans parler de l'image du corps, sans parler de la chair. Alors, je dis ça parce que, en 64, Orlan crée une œuvre qui s'appelle Orlan accouche d'elle-même. Alors c'est joli parce que il y a un petit jeu de mots en fait. D'elle-même, c'est écrit même comme le verbe aimer. Et ça figure peut-être la volonté de l'artiste finalement de s'incarner en tant que tel. Il s'agit d'une photographie. Alors Orlan d'ailleurs, c'est un pseudonyme, ça au fait.
Hein, c'est un nom de guerre.
C'est un nom de guerre, carrément. C'est pas seulement un pseudonyme.
Non, j'aime pas la guerre, donc c'est pas ça. Mais c'est un nom qui me désigne comme étant artiste, comme voilà, ayant fait un pas de côté.
D'accord. Et votre véritable nom, Orlan, c'est quoi?
Celui d'état civil. Complètement.
Vous l'avez complètement oublié. Donc ça reste un secret.
C'est vraiment un Orlan. Je l'utilise depuis, je ne sais pas, 30 ou 40 ans. C'est sur ma carte. Sur mon passeport,
c'est carrément sur le
social. Oui, j'ai pris un avocat, j'ai demandé au procureur de la République, et donc c'est tout à fait officiel.
C'est totalement officiel. Voilà. Donc c'est Orlan. Ok. Alors, de 74 à 79, eh bien, vous inventez, vous créez Mesurage. Et alors bon, je me suis documenté. En fait, je suis allé tout simplement sur Wikipédia. Vous voyez, c'est très très simple. Et alors là, j'ai été très étonné quand même parce que sur Wikipédia, il est sorti 8 pages vous concernant. Hein. C'est pas rien ça. Donc mesurage. Là, vous inventez, semble-t-il, une nouvelle unité de mesure, l'Orlan-Corps. Et avec cette unité de mesure là, vous avez arpenté, si je ne m'abuse, la place Saint-Pierre de Rome, rien que ça. Le centre Georges Pompidou, le musée Guggenheim et encore d'autres choses. Il me semble qu'il y avait Nice également, etc. Alors, comment on peut comprendre ce postulat, justement, de devenir soi-même un instrument de mesure? Ça correspond à quelle idée, ça?
Bien avant, le corps était... la mesure était inscrite dans le corps. La coudée, le pied...
Oui, c'est vrai.
C'était vraiment des choses qui avaient une relation au corps. Alors que le maître est quelque chose de tout à fait en dehors du corps.
D'accord.
Donc,
c'est la notion
l'idée, c'était de revenir... de revenir au corps.
C'est ça. Et
effectivement, j'ai créé un instrument de mesure qui correspond à 10 petits Orlans corps en photo et qui peut permettre de mesurer le monde entier. Mais c'est un Orlans corps qui est donc préservé sous un plexiglas, exactement comme
un maître étalon, finalement.
Comme le maître étalon.
Ça, oui.
Mais en fait, j'ai fait beaucoup de performances et à la fois dans la rue et à la fois dans des institutions parce que se mesurer à une institution, se mesurer avec le nom porté par une rue d'une vedette de notre histoire, c'est en même temps effectivement relativiser sa grandeur et se mesurer avec. Et donc je prends une méthodologie qui est pseudo-scientifique, où je m'allonge et je trace un trait à la craie derrière ma tête, puis je me mets à quatre pattes, puis ensuite je mets donc les pieds, c'est pas les pieds, c'est les souliers, parce que c'est pas un corps nature, mais un corps culture, un corps socialisé, habillé avec les souliers du jour, qui sont parfois des talons compensés, comme à une certaine époque. Donc c'est quelque chose de très approximatif. Et ensuite, je compte le nombre de fois que je suis... dans cet espace.
Et non, c'est aussi très ludique, hein, d'ailleurs, finalement.
Moi, j'ai toujours beaucoup d'humour et j'aime le corps, mais pas le corps souffrance, pas le corps endurance, pas le corps et ses limites psychologiques et physiques. J'aime le corps plaisir, j'aime le corps sensuel, le corps humour. Et donc,
amour également,
voilà, et c'était effectivement, pour le moment, c'était une des pièces du mesurage du centre Georges Pompidou est exposée dans l'exposition Elle, aux côtés du baiser de l'artiste dont on parlait tout à l'heure.
D'accord. Alors, on continue donc cette petite visite justement de vos différentes œuvres et on remonte dans le temps, enfin chronologiquement. Donc, en 1990, vous commencez une série de 9 opérations performance, hein, on peut dire ça, que vous intitulez La réincarnation de Saint Orlan. Donc, ce sont des opérations de chirurgie esthétique, hein, où vous modelez votre propre chair en quelque sorte, le corps comme support ultime. Alors, après ça, en 93, il y a Omniprésence, où vous vous faites faire à New York des implants haut niveau des tempes. Alors, c'est une opération performance diffusée en direct dans plusieurs endroits, dont le centre Georges Pompidou d'ailleurs, ou même la galerie Sandra Gehring à New York, avec laquelle j'imagine vous deviez travailler à l'époque. Qu'est-ce qui a motivé ce travail justement de chirurgie esthétique ? Parce que ça, c'est quand même pas rien de faire des interventions sur son propre corps.
Écoutez, par rapport à tous les artistes qui ont travaillé dans la catégorie du body art, en fait, c'était une chose qui n'avait pas pu être utilisée parce que la chirurgie esthétique n'était pas assez avancée à cette époque-là. Et donc, moi, comme je vivais une époque où justement la chirurgie esthétique était de plus en plus en place et utilisée, il me semblait bon de faire autre chose et autrement avec cette chirurgie. Donc, de ne pas travailler sur une amélioration ou un rajeunissement, mais de travailler sur un changement d'image et avec des images qui n'avaient pas de rapport au modèle qu'on nous propose habituellement. Donc c'était de casser les images qu'on nous sert dans les magazines, dans les films, dans les bandes vidéo, les jeux vidéo. Donc c'était casser les images, apporter d'autres images et montrer qu'en fait, on peut utiliser à notre époque la chirurgie, mais peut-être pour la détourner de ses habitudes et de ce qu'on nous désigne. Donc, j'ai essayé de faire.
Voilà, on va essayer de comprendre un peu mieux, parce que moi, effectivement, j'ai la chance de vous avoir juste en face de moi. Donc, je vois effectivement les implants que vous avez sur les tempes. Alors, effectivement, c'est pas une esthétique. Je pense que c'est aussi.
Oui, mais attendez, si vous décrivez à la radio, c'est une femme qui a deux bosses sur les tempes. tout le monde va penser que je suis un monstre et que je suis imbaisable.
Mais pas du tout.
Alors, quand on me voit, là, ça change un petit peu.
Absolument, mais vous êtes tout à fait agréable à regarder.
Ce que
je veux dire, c'est que, bien évidemment, c'est de la chirurgie esthétique. Bon, donc, en quoi vous avez effectivement changé un petit peu la perception que les gens peuvent avoir, justement, de leur propre corps, ou même, d'ailleurs, influencé sur le fait que les médias, bien évidemment, exercent un pouvoir un peu tyrannique hein, sur le corps des femmes, surtout aujourd'hui, en leur imposant des canons et des modèles, des modélisations comme ça de beauté. Comment vous êtes placé par rapport à ça ? J'ai pas vraiment compris.
Et j'ai essayé d'être en décalage complètement avec les modèles imposés. Mais j'ai avant tout, bien sûr, j'ai utilisé la chirurgie esthétique, mais avant tout, j'ai fait des œuvres. Donc, le bloc opératoire était devenu mon atelier d'artiste où je dessinais avec mes doigts et mon sang des sortes d'autoportraits où je travaillais avec les gaz sur lesquels il y avait mon sang que je faisais sécher, sur lequel je faisais des rapports de photos dessus comme un sensuaire. Je répondais aux questions pendant l'opération, donc des questions qui m'étaient posées du centre Georges Pompidou ou ailleurs, ou d'où étaient diffusées les bandes vidéo. Ce que je veux dire, c'est qu'avant tout, c'était pensé comme quelque chose qui devait prendre part complètement à, non pas à ma vie de tous les jours, mais à ma vie artistique. Donc, je dirigeais la photo et la vidéo dans le bloc opératoire. Il se passait énormément de choses. Et la première chose que j'ai essayé aussi de bouleverser par rapport à la chirurgie et l'idée qu'il faut souffrir pour être belle, c'est le premier deal avec le chirurgien était pas de douleur, ni pendant, ni après. Ce qui est tout à fait possible à l'heure actuelle. On peut tout à fait avoir un corps ouvert sans en souffrir, comme on peut accoucher sans en souffrir, ou mourir d'une maladie terrible en souffrant beaucoup moins qu'avant. Donc, ce que j'ai essayé, c'est de dire des choses.
Une anesthésie locale, c'est ça ?
C'était des anesthésies locales, mais bien évidemment, c'était des anesthésies qui me permettaient de continuer à lire, à parler, à faire des choses, à faire des performances dans le bloc opératoire, etc. Donc, ça, pour moi, c'est extrêmement important de dire cela. J'ai beaucoup travaillé dans les équipes médicales pour essayer, justement, de changer les habitudes, parce que particulièrement en France, souvent les équipes chirurgicales, les chirurgiens se soucient très 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 peu de la douleur, à part comme une alarme et une douleur qu'il faut supporter. Donc souvent on donne un doliprane à des gens à qui on vient de faire une opération du ventre ou des os, ce qui effectivement ne résout rien. Donc j'ai essayé de montrer qu'avec certains médicaments, il était tout à fait possible d'avoir un corps sans souffrir. Donc pour moi, ça c'est vraiment très très important. Donc si vous voulez, il y a plusieurs couches. Mon travail, en fait, est non pas compliqué, il est complexe.
Oui.
Donc c'est vrai que on a souvent les journaux m'ont fait des gros titres qui sont réducteurs et qui parlent uniquement de la chirurgie esthétique. Oui. Mais il y avait beaucoup d'autres choses qui étaient dites en même temps. Oui, et en fait, la principale chose, c'était que j'ai essayé de mettre de la figure sur mon visage. Mais comment expliquer de la figure sur mon visage, donc de la figuration, de la représentation, ouais. Et de créer ce qu'on appelle en art un sfumato, c'est ce qu'a inventé Vinci, entre la présentation et la représentation. Donc le sfumato, c'est ce qui passe entre le fond et la forme, entre le portrait et le fond. Donc j'ai avant tout essayé de travailler là-dessus, et actuellement, alors qu'il est possible d'avoir une greffe de visage, je pense que ça met en interrogation justement nos habitudes et même notre éthique, et c'est cela qui m'intéresse aussi bien que lorsque je travaille dans les biotechnologies, c'est de faire changer nos habitudes de jugement sur les choses sans les reconsidérer à partir de notre époque.
Vous êtes une artiste engagée ?
Ah oui, très, ça se voit pas.
Stylé, ok, funky, trop drôle, samedi, trop cool, sympa, puissant, dément, piscine, villa, champagne, taxi, ifi, Dolby, Botox, glamour, sexy, crazy.
T'es trop VIP. T'es trop VIP.
Vous êtes sur RGB 99.2, c'est toujours Trafic d'art. Nous entamons la deuxième partie de cette émission en compagnie d'Orlan à l'occasion de son exposition donc à l'abbaye de Maubuisson intitulée Union mixte mariage libre, pourquoi lisse, et noces barbares. Donc une exposition qui se tiendra jusqu'au 8 mars 2010. Alors pourquoi ce titre, Orlan ?
Et alors, Nos Barbares, en fait, j'ai essayé de développer la notion de Nos Barbares de Deleuze et Guattari. Donc, dans toute cette œuvre. Donc, c'est pour cela que j'ai fait un jeu entre union mixte et mariage libre. Et j'ai parlé aussi d'hybridation. Donc, voilà. Donc, la première salle, en fait, est une salle, on pourrait dire, de mariage, puisque la grange Odim, qui fait une cinquantaine de mètres de long, est envahie de musique, comme un bal populaire, comme lors d'un mariage, où tout le monde vient danser. Ce qui m'intéressait dans cette idée, c'est qu'effectivement, dans les mariages, les générations se côtoient, flirtent ensemble, les vieux, les jeunes, les moins jeunes, etc. Et puis les voisins arrivent, éventuellement, s'ils entendent la musique, soit pour dire de la baisser, soit pour venir danser avec les autres. Et donc, on arrive dans un paso-doble. Et pourquoi on arrive dans un paso-doble? Double parce que en fait est projeté dans une sorte de drywing puisqu'il y a une énorme voiture, une projection d'un film qui s'appelle Roland Ruimix, Romain Gary, Costa Gavras et Deleuze et Guattari. Et c'est un film en fait qui au départ m'a été commandé et qui a commencé à passer sur les chaînes de télé hier sur Arte. Qui m'a été commandé en fait dans un grand ensemble de 10 petits clips de 2 minutes qui défend l'idée de vivre ensemble sans racisme. Mmh. Et donc cette idée m'a beaucoup intéressé et je suis parti sur un film de Costa Gavras que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup en fait le texte qu'il a pris de Romain Gary qui s'appelle Claire de femme. C'est un auteur que je recommande à tout le monde et en particulier Gros Câlin. C'est un des traits d'esprit et en même temps c'est très très drôle. Et donc ce film, il y a un moment ce film est joué par Montand et Romy Schneider. Et il y a un moment, il y a Montand qui attend Romy Schneider qui ne vient pas dans un cabaret où il est au bar et derrière lui, il y a en fait un numéro absolument incroyable avec des caniches qui sont de toutes les couleurs. Il y en a un noir, un marron, un blanc, un beige et puis un rose et un chimpanzé. Et donc le chimpanzé met le disque de Paso Doble et va inviter la caniche rose. Et ils dansent ensemble. Et Montand ne veut pas regarder. Il dit tout ça et c'est dégueulasse, etc. Et à côté de lui, il y a des Japonais ou des Asiatiques, on ne sait pas, qui eux sont très enthousiastes. Il y en a un qui dit mais c'est extraordinaire, c'est vraiment le chimpanzé de l'ère chrétienne. On n'a jamais vu un numéro de dressage pareil. C'est absolument fantastique, etc. Et il en a ras-le-bol, Montand, et il lui dit vous êtes belge ? Et le Japonais lui dit non, mais pourquoi ? Alors Benigni dit mais oui, vous savez, maintenant on peut teindre un Japonais en belge et un belge en japonais et vice versa, etc.
Avec la voix particulière de Benigni, bien évidemment.
Oui. Oui. Alors je vous raconte pas tout, mais c'est vrai que c'est une mauvaise blague de comptoir qui au départ nous laisse perplexes et peut faire penser à du racisme. Mais en même temps, c'est toute la vérité sur l'affaire, c'est qu'effectivement actuellement on peut être japonais et belge en même temps, ou belge et puis japonais. Donc, c'est ce mélange, ce mixage, ces hybridations, ces immigrations, ces réseaux différents et nouveaux qui se passent et qui ne sont pas encore dans nos têtes. Donc, dans ce film, je recommande effectivement l'hybridation, en disant hybridons-nous, en agitant un shaker dans un bar.
Alors, restons, si vous voulez bien, donc dans le mixage et l'hybridation pour l'œuvre suivante qui est, elle, installée dans la salle du parloir. Et celle-là est aussi très étonnante. Il s'agit d'une sculpture interactive et qui d'ailleurs vous ressemble un peu, voire même beaucoup, quoique. Et donc, ça s'appelle Sculpting Brushes, c'est ça, prototype lumineux.
Bimplode, oui. Bimplode Sculpting Brushing.
C'est ça. Ça veut dire quoi, Bimplode ?
Bimplode, c'est charger des bosses. Alors, comme j'en ai quelques-unes déjà, charger des bosses, c'est un logiciel et c'est un outil qui permet de charger des bosses. Et donc, d'avoir une 3D qui, tout à coup, prend des formes et des volumes tout à fait différents.
Alors, c'est un mannequin, c'est ça, non ?
Alors, enfin, c'est une sculpture. C'est une sculpture qui est hybridée entre le corps d'une africaine et moi-même. Elle est entièrement lumineuse et réagit donc à elle est interactive
à la présence des gens.
Il y a trois capteurs. Mais surtout, ce qui m'importe pour moi, c'est qu'en fait, elle est sur une sorte de lame lumineuse qui est fabriquée en fibre optique et qui pour lequel j'ai dessiné. Des atomes de coltan ou inspirés par des atomes de coltan. Alors je ne sais pas si vous savez ce qu'est le coltan. Le coltan, c'est un minéral noir, très dur, très cher, radioactif et qui est pour le moment exploité dans des mines en Afrique centrale. Et pour le moment, il y a vraiment une espèce de grande guerre souterraine qui est géopolitique avec ces mines qui, effectivement, comme toutes, le coltan est dans tous nos téléphones et dans nos ordinateurs, toutes nos nouvelles technologies sont basées sur ces mines et sur ce sol. Donc c'est vraiment un problème de notre époque et qui se situe en Afrique. C'est pour ça que j'ai fait une self-hybridation africaine pour aussi parler de ce problème. Vous voyez combien il y a de couches dans le travail de lecture possible.
Il y a effectivement des strates, absolument. On ne va pas non plus tout dévoiler cette exposition. C'est bien que le public puisse faire son avis par lui-même. Alors, j'aimerais quand même qu'on aille directement, si vous le voulez bien, retrouver votre alter ego, AK, donc qui est dans les latrines. Alors, c'est pas non plus n'importe quel lieu, les latrines. Et là, effectivement, vous mettez en scène une œuvre, à mon sens, assez étonnante, qui mêle la religion au sport et qui semble finalement dénoncer les excès de l'un comme de l'autre. Le sport finalement peut-être comme nouvel opium du peuple. C'est quoi donc cette installation ?
Eh bien écoutez, cette installation, donc en fait il y a comme une très grande croix qui fabrique donc une sorte de chapelle dans ses latrines et qui n'ont plus d'odeur, elles sont très très belles et très clean. En fait comme si c'était des moniteurs les uns sur les autres qui diffusent des images de foot que nous avons eues d'ailleurs. Par Visiofoot, qui est situé dans le Val d'Oise, et heureusement qu'on les a eues parce qu'on n'arrivait pas à acheter des images tellement elles sont chères et tellement il y a de problèmes de droit là-dessus. Donc, merci à Visiofoot. Donc, j'ai au pied, il y a des ballons de foot en quantité, dont un qui est sur un socle séparé. Et sur ces ballons de foot, il y a en fait imprimé des versets de la Bible ou du Cantique des Cantiques, dont des choses très érotiques. Et effectivement, c'était pour poser la question du harcèlement du foot et de la religion. Je voyage beaucoup. Et
vous mettez ça sur le même plan, finalement, c'est ça, la religion d'un côté, le football de l'autre.
Oui, parce que, par exemple, je voyage beaucoup, je tire mon tiroir de la table de nuit et je me retrouve non pas avec le Kama Sutra ou Spinoza, je me retrouve avec le Nouveau Testament ou la Bible. Donc, il n'y a aucune raison qu'on me mette ça dans mon
tiroir. Vous auriez préféré le Kama Sutra, oui, c'est sûr.
Éventuellement. Ouais. Enfin, un hôtel et une chambre et un lit peut servir aussi à un certain nombre de choses autour de cela. Bon, et puis, je vais dans un bar, il y a le foot. Je vais dans un hôtel, il y a le foot. Je monte dans un taxi, il y a le foot à plein bal. Et si je dis, est-ce que vous aimez la musique ? On me dit, mais pourquoi ? Et on me laisse le foot. Donc,
une véritable tyrannie qui est exercée.
Écoutez, il n'y a pas si longtemps, j'étais à Perth, en Australie, avec une fièvre de cheval. Je venais d'attraper une grippe. Et je me retrouve avec 42 fièvres dans la salle des urgences. Et à gauche, il y avait le foot. Et à droite, il y avait le foot. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment incroyable. Et quand je vois dans les familles les gens uniquement avachis avec des cacahuètes, des heures et des heures, des heures. Et où est-ce qu'on apprend aux enfants la subtilité, la nuance, la sensibilité? Je vois que des gens qui se lèvent et c'est
vous vraiment
a bien entendu,
incroyable. Oui.
C'est d'ailleurs il y a AK le chant là c'est des Rubigman.
Oui, c'est ça.
C'est hallucinant. Ouais. Il y a tout à
ça
coup.
Ça vous fait peur cette tyrannie de l'image comme ça?
Non, mais c'est-à-dire qu'on fabrique des besoins, des demandes dès le plus jeune âge auprès des garçons. C'est pas et c'est hallucinant. On leur apprend qu'à gueuler. à taper sur l'autre,
à éructer,
à manger des cacahuètes et des chips et de la mauvaise bouffe, et à se retrouver bêtement là-dessus, sans pensée, sans subtilité. Mais c'est absolument incroyable.
Vous êtes
c'est
bel
complètement
et bien une
fou. Donc c'est fabriqué, c'est formaté,
vous êtes
c'est
bel et bien
conditionné.
Engagé.
C'est et pour la religion, c'est pareil.
Alors,
pourquoi, quand on est né à tel endroit, on doit obligatoirement croire en tel dieu ou en tel autre?
Alors, vous êtes baptisé?
Non. Je suis en cela. J'ai suivi un certain type d'héritage, pas tous, mais j'ai servi. Ils étaient anticléricales, espérantistes, anarchistes et anticléricales. Oui. Donc,
tu parlas la internacia lingvo esperanto?
Ah, je l'ai su, je l'ai appris, c'est bien que vous le sachiez. C'est quelque chose
j'avais
qui a disparu,
ça,
maintenant il n'y a plus
oui.
que l'anglais qui est devenu oui. l'espéranto général. Mmh. Donc si vous voulez, je ne suis pas contre la religion et le sport. Chacun règle les problèmes soit avec son corps, soit avec ses problèmes de vivre comme il peut. Il y en a qui prennent de la drogue, il y en a qui prennent du Valium, il y en a qui... Mais qu'on ne refuse pas à ceux qui sont athées d'être athées. Je vois par exemple dans Facebook, la première chose qu'on vous demande, c'est de quelle religion êtes-vous ? C'est absolument insupportable, comme si c'était obligatoire d'avoir une religion et de croire en quelque chose. Ça peut faciliter la vie, hein. C'est sûr qu'on sait ce qu'il faut faire une fois qu'on a une religion. Mais tout de même, c'est vraiment une manipulation, et une manipulation, la religion et le sport sont des alliés du pouvoir, quoi. Il faut quand même en être vraiment conscient.
Et le dire. Mais alors, malgré tout, excusez-moi, je vous titille un petit peu, mais parce que en lisant effectivement votre biographie, je me suis aperçu que ça revenait de manière très très récurrente à travers, bon, ne serait-ce que le baiser de l'artiste. On en a parlé tout à l'heure. Je parle de la question religieuse, hein, qui revient. Le baiser de l'artiste. Donc, lorsque vous êtes en Madone, il y a le drapé, le baroque aussi. Il y a la réincarnation de Saint Orlan tout de même. Ceci et mon corps, hein, bien sûr, et puis même donc voilà tout récemment d'Union Mixte Mariage Libre et Noce Barba, cette histoire vous taraude et j'ai le sentiment, mais peut-être que j'ai une grosse bêtise, qu'il n'y a pas uniquement de la révolte dans ce travail, comme s'il y avait une sorte de fascination aussi pour l'objet religieux. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en vous de trouble par rapport à ça?
Ça, il faudrait que vous me le disiez, que vous me l'expliquiez, mais moi qui suis un poisson dans mon bocal, je ne vois pas ce bocal-là.
D'accord.
Mais ce que j'ai toujours essayé, c'est effectivement de prendre des distances par rapport à un formatage. Donc effectivement, quand on essaye de sortir du cadre, faut-il encore qu'il y ait un cadre autour, mais il y en a toujours un. Le problème, à quoi il ressemble, de quoi il est fait, comment on peut s'en débarrasser ou aller dans un autre cadre qui nous convient mieux.
Parce que donc, vous savez qu'il y a une grande différence entre la religion et la mystique, bien évidemment.
Oui.
Donc,
oui.
Est-ce que vous seriez finalement peut-être plus proche de la mystique que de la religion, ou est-ce que la mystique ne vous intéresse pas également?
Ça ne m'intéresse pas non plus beaucoup.
Ça ne m'intéresse pas non plus.
Non.
D'accord.
Mais il y a des degrés, donc je préférerais de ce côté que de l'autre. Mais je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Bien sûr, les images qu'on nous a... Moi, en fait, j'ai découvert, ce qui est très bizarre, c'est que j'ai découvert la religion, effectivement, par l'intermédiaire de l'art, dans les musées, en voyant qu'effectivement, toutes les œuvres étaient fabriquées comme une propagande pour la religion. Donc, toute la première partie de mon travail, en fait, j'ai travaillé sur la citation de notre iconographie, parce que justement, je voulais aller voir comment on avait mis la femme dans cette position, et que ce soit comme modèle ou que ce soit comme modèle religieux. Et donc, j'ai pris des poses qui ressemblaient à ces images-là. Alors, dans quelle mesure on s'empoisonne des images que l'on dénonce, mais est-ce que l'on, en tant qu'artiste, est-ce qu'on doit parler toujours des petites fleurs, parce qu'effectivement, on sait que là, on dérangera personne, ou est-ce que tout à coup, on doit parler de problèmes de société, de faits de société, de choses qui nous manipulent? C'est ce que j'ai essayé de faire.
Orlan, vous connaissez Nosfell ? Nosfell ? Non,
non.
Ben vous allez découvrir, donc ça s'intitule « Ta main, tes dents » et c'est juste avant la chronique de Pierre Soulier, bien sûr.
« Venge-toi, 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 venge-toi. Sorti de mon sommeil, la nuit a un goût de sel. Je suis un os grossissant dans un corps minuscule. Redressé comme un sapin, résineux comme une plaie, ma main couverte de sang affaiblie sous leurs dents.
Salut à toi, auditeur. Ô candeur monotone de la dépression d'automne, désir de sonotone, se priver d'un second sens que plus rien n'étonne. Depuis longtemps, déjà, à faune, j'erre parmi les faunes, loin de tout électrophone, je vois flétrir ma faune. Et voilà que les stimuli foisonnent, m'extrayant de la torpeur où je zone, hagard de tant d'informations qui résonnent, en ma tête et la perce telle une couche d'ozone. Elle m'invective, me soulève et partout gronde et tonne, submergée, étouffée, je m'écrase, car voici la connerie humaine qui revient à la tonne. En l'abbaye de Maubuisson, je suis allé, écœuré de ce monde, je me suis assis, et mes yeux j'ai reposé. Dès lors, une brume épaisse s'est levée. Du sol, d'un bouillonnant sang, s'est élevé en volute un dense masque fumeux dans lequel dansaient les formes d'un songe en maturation. Soudain, surgissant de ce plan vaporeux, des myriades de mains m'empoignèrent et tentèrent de m'attirer à lui. Durant ma vaine résistance, je voyais dans la brume se préciser les contours à grand renfort de lumière qui commençaient à éclore au loin de ce paysage où, malgré moi, je venais de poser le pied. Enfin posé, le terme est éphémère, car sitôt glissant commença une longue descente. Les appendices tomenteux, la chair prise, non sans me laisser en guise de vêtements, un ample drapé immaculé me laissant virginal en pente douce, comme dans un pyjama de papier, à l'abri de moi-même. Sur l'horizon se découpa alors une procession silhouettée de lumière. Serpentant dans ma direction, leur approche révéla un sillon d'hommes affublés du même uniforme, short et t-shirt de tonalités saturées et bariolées, psalmodiant tous dans une cacophiale des hymnes exhortant à la beauté du jeu. À ma hauteur, tous s'arrêtèrent et firent silence, quand d'une même voix ils hurlèrent « Yes, we can !» avant de se fracasser sur le front un grand carton rouge. Une accélération soudaine me propulsa, pris entre angoisse et consternation, je laissais loin derrière moi les chevaliers du culte en crampons. Sous mes pieds m'apparurent en nébuleuse de sinueuses formations ténébreuses. Je survolais maintenant concrétion et pollution, en goudron et béton s'étalait une morte et sombre plaine, où une lumière ténue menait une guerre perdue d'avance contre les ombres qui s'en élevait. À présent, caressé de ces spectres, mon habit s'assombrit et, appesanti, m'attira vers le bas. Gonflé d'air vicié, ma robe noire retentissait à ma chute. En passant devant ces façades, je vis, dans une pluie de verre, nombre de gens emprunter la même route que moi, certes plus rapide, mais inexorablement vers le bas. Bizarrement amusé, j'atterris sans encombre sur un sol jonché de cadavres et de téléphones, mais je me mis vite en terreur quand je découvris au détour d'une rue une jungle d'hommes surgissant de toutes parts. Ils se ruèrent les uns sur les autres, s'arrachant leurs vêtements comme on déchire du papier. Très vite, deux factions se distinguèrent, les dénudés sans papier contre les plus nombreux. L'un d'eux me prit à partie et tenta de déchirer ma robe. Je commençais à me débattre quand d'autres se dirigèrent vers moi. La situation était claire, je décidai donc de m'attaquer à mon agresseur, qui gisait, nu, à mes genoux, sous mon doigt accusateur, au moment où les autres arrivèrent. Je fus dès lors entraîné par la cohorte des vainqueurs traînant derrière, nous, notre triste butin humain. Parvenus au bord d'une falaise, ils furent chargés dans un avion de papier, puis projetés dans le vide, sous les huées glapissantes de leur bureau. Regardant le frêle esquif s'abîmer au loin entre viva et terreur, je me demandais intérieurement s'il était échappé à tout ceci. « Yes, we could », me répondit une petite voix dans mon dos. Elle semblait provenir de l'habitacle d'une grosse et clinquante limousine dont la porte était ouverte et sonnait comme une invitation à mon oreille au milieu du brouhaha barbare. Je m'éclipsais discrètement et grimpais dans le moins intérieur. D'abord sombre se dessina une silhouette face à moi. Subrepticement apparurent en flash des traits de mon hôte mi-faune mi-femelle. La lumière semblait venir d'étranges ouvertures zébrant sa peau de bronze et palpitait tel un cœur électrique. Sa voix hydromel s'éleva hypnotique et me décrivit ce monde d'horreur avec la commisération du sage survolant l'indigent d'un air satisfait. Ainsi, grisé de mots, je me laissais entraîner à signer un contrat auprès de cet être qui se révéla marchand d'âme au moment d'engloutir le dit contrat en son ventre mi-biologique, mi-mécanique. Désormais lié, je vis mon âme en parcelles découpées, à mesure que la lumière sur moi s'intensifiait, donnant au noir de ma robe des reflets barbituriques, prolongeant l'anesthésiante ivresse. De salon cossu en intérieur princier, je fus bling-bling balé et exposé au tout venant. Nombre de mains sur moi passèrent, emportant au passage le peu d'amour propre qui me restait. En échange, il me fut forgé un ego en or 24 carats. Et ma descente prit fin en plongeon, je flottais mollement à la surface d'une baignoire hors de dorée, quand mon ego surgit hors de ma poitrine, tel un soleil, qui suivi d'une scène accrochée à mon cou, l'or devint plomb, et me tira à sa suite dans la profondeur de mon bain où l'oxygène se raréfiait. Paniqué mais amorphe, je ne me débattais pas, mais souhaitais tout de même me raccrocher à cette vie que je voyais défiler devant mes yeux, quand le film s'arrêta sur cette ultime question. Do you really believe you could? Vous auriez vraiment cru que vous pourriez? Et cette question retentit jusqu'à n'être plus qu'une stridence infernale, se mêlant aux battements métalliques de mon cœur résonnant douloureusement entre mes tempes. À ces sons incessants, je m'éveille et je grogne. Sur mon poitrail de rage, hurle et cogne. L'impuissance d'un homme, quelle que soit sa besogne, à ne brasser que de l'air en somme. On rêve du pouvoir d'un borgne. On se désigne roi et sur les aveugles on lorgne. Bedonnant et pedant, on se gonfle, on s'affectionne. D'une fallacieuse contenance se berce et s'illusionne. Mais alors, faible et lâche, sur lui-même se renfrogne.
C'était la chronique de Pierre Soulier.
Alors voilà. Moi, j'aimerais bien savoir, quand vous dites le mot « homme », vous entendez « humain » ou si c'est « homme » et « femme »
Dans le contexte des
hommes... C'est « homme » avec un grand H ?
C'est « homme » avec un grand H, très souvent, oui.
Alors moi, j'adore les hommes, mais avec des petits H, et les femmes avec des petits F.
Orlan, quel est votre artiste préféré ?
Oh, je n'ai pas d'artiste préféré. Il y a des choses préférées, des œuvres préférées. Il y a beaucoup d'artistes que j'aime. Nous sommes tous des mémoires, aussi bien dans le passé que dans le présent.
Ouais. Votre critique d'art préféré, c'est idiot, ça comme question.
Oui.
Hein, un peu. Ok. Bon, votre musée préféré.
Oui, il y a beaucoup de musées aussi que j'aime. C'est pareil. Okay. Non, ça va du musée de Mexico à un musée d'anthropologie. Le centre Georges Pompidou.
Alors justement, le centre Georges Pompidou, vous aviez une annonce à faire par rapport à une exposition.
Enfin, une annonce, en tout cas, je suis dans l'exposition. Allez-y. Elle, et c'est une exposition extraordinaire qui est sur 7000 mètres carrés et qui est enfin les œuvres d'artistes femmes qui sortent des storages et aussi beaucoup d'artistes femmes achetées. Et c'est une exposition qui effectivement fait peur parce qu'il y a une catégorie, les femmes, mais c'est vrai qu'il y a tellement longtemps qu'on n'en voit pas ou on en voit peu. Moi qui suis professeur à l'école des Beaux-Arts de Cergy, où j'emmène mes étudiants au centre Georges Pompidou, et bien dans les collections, la plupart du temps, je n'ai que des hommes avec un petit H à montrer à mes étudiants. Il n'y a pas de modèle féminin. Donc c'est vrai que les femmes exposent beaucoup moins, n'ont pas les commandes publiques, n'ont pas les catalogues. Donc après, on les cherche et elles ne sont pas dans le marché, elles ne sont pas dans les grandes galeries, etc. Donc il y a vraiment une discrimination énorme, quoi. N'importe comment dans le monde entier, c'est un véritable apartheid.
Orlan, Sophie Kahl, c'est une copine à vous ? Elle expose aussi dans les...
Ce n'est pas une copine, mais c'est un travail que je respecte, bien
vous
évidemment.
Vous aimez bien le travail de Sophie Kahl.
Net Messager, mais beaucoup d'autres.
Alors, donc, on arrive là maintenant au terme de l'émission. Donc, je rappelle que votre exposition à l'abbaye de Maubuisson, c'est jusqu'au 8 mars 2010. On a encore le temps, effectivement, d'en profiter largement. C'est, l'adresse, c'est rue Richard de Tours à Saint-Ouen-l'Aumône. Le téléphone, parce que ça peut toujours servir, le 01 34 64 36 10. Je répète, 01 34 64 36 10. Voilà, cette émission sera rediffusée dans son intégralité mercredi 11 novembre de 14h à 15h, que vous l'ayez aimé ou non, c'est comme ça, c'est le même prix. Eh bien, je remercie très chaleureusement Orlan pour avoir été avec nous ce
merci
soir,
beaucoup.
C'était un bon moment. Merci également à Jérôme en régie et à Pierre à mes côtés. À suivre Motus Live avec Arnaud. Notre prochain rendez-vous, quant à nous, sera le 1er décembre. Ciao, ciao.